Bonjour à tous, j'ai pas eu l'occasion de saluer tout le monde au départ. Je me réjouis beaucoup d'être au milieu de vous. C'est toujours avec joie que je viens occasionnellement chez vous et je me réjouis beaucoup. J'ai du plaisir aussi à chanter de temps en temps sans instrument. Oh, je n'ai rien contre les instruments, je suis musicien aussi à mes heures, mais c'est vrai que des fois, par exemple en Afrique, j'ai beaucoup regretté, je suis beaucoup allé en Afrique, et il fut un temps où il n'y avait pas d'instrument. Alors on chantait à plusieurs voix et c'était très bouleversant. Et puis tout à coup, l'année suivante, ils avaient acheté une sono qu'ils mettaient à fond et on n'entendait plus aucune voix, ce qui était dommage. Alors ça arrive des fois en Afrique, vous savez, il y a toutes sortes de pannes et on me dit des fois, oh, nous sommes désolés ce matin, il n'y a pas d'électricité. Et moi dans mon cœur, je me dis, oh formidable, on va de nouveau entendre les voix des frères et sœurs. C'est vrai que ça fait du bien des fois d'entendre les voix du peuple de Dieu, mais encore une fois, c'est super d'avoir aussi des musiciens et d'être entraînés. Alors, je veux partager avec vous ce matin une prédication assez prophétique qui m'a été donnée dans des circonstances très particulières l'année passée lors du jeûne fédéral. Je devais normalement prêcher dans la convention qu'on appelle « Discerner les temps » à Yverdon, une convention qui a lieu depuis 20 ans et qui réunit chaque année des centaines de personnes avec souvent des orateurs qui viennent un peu du monde entier. Et cette année, ils avaient souhaité que ce qu'on appelle l'équipe prière et discernement, qui est une équipe très vieillissante comme moi, mais qui se rassemble depuis 40 ans en Suisse romande pour prier pour la Suisse romande. Et dans cette équipe, hélas, nous avons perdu déjà deux membres de cette équipe, dont Maurice Rey, dont certains évidemment l'ont très bien connu, et récemment Michel Renevier, qui était un très très cher ami. Et il y a encore, heureusement, Philippe Descorbet, Jean-Pierre Besse, il y a Jean-Marc Bigler, Tom Blumer, etc., des personnes que vous connaissez aussi. Et on s'est retrouvés pendant beaucoup d'années, chaque mois, 24 heures, pour prier pour la Suisse romande. Et aussi pour, des fois, gérer certaines situations qu'on nous soumettait en Suisse romande. Et ils ont souhaité dans cette convention que les orateurs soient, au fond, les membres de cette équipe prière et discernement. Alors voilà, on s'est préparé dans la prière, on s'est préparé et puis on a réparti aussi, à un moment donné, les thèmes et puis qui faisait quoi, à quel moment. Et donc j'ai été chargé de l'enseignement, plus qu'une prédication, le dimanche matin. Et c'était normalement des temps de parole d'environ 1h20. Et j'avais le thème « Dieu confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles ». Et puis voilà, moi je me préparais bien sûr, et mes amis aussi. Le mercredi qui précédait cette convention qui commençait le vendredi soir, mon épouse a reçu un téléphone, moi j'ai donné une conférence à Lausanne et d'un pasteur qui était un petit peu inquiet d'Yverdon, qui disait, il faut à tout prix que j'atteigne votre mari. Bon, très bien, il a dit, écoutez, essayez demain dès midi. Alors il a pu m'atteindre et il m'a dit, écoutez, il faut me donner des lectures bibliques, parce que c'est vous qui prêchez au temple d'Yverdon pour la grande rencontre entre la grande célébration entre les catholiques, les réformés, les évangéliques et les autorités de la ville. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, il y a mal d'homme, parce que moi j'enseigne dans la convention Discerner les temps qui a lieu aussi à Yverdon. Et puis je lui ai dit, voilà, il y a une erreur. Et donc, il avait l'air un peu décontenancé, mais on s'est quitté ainsi. Et c'est finalement que le vendredi, que j'ai découvert, il faut dire que j'avais reçu un email 3 semaines avant qui portait le titre « programme définitif. Mais quand on connaît le programme, on n'est pas très pressé d'ouvrir. On se dit, voilà, je vais ouvrir cet email, l'imprimer même peut-être 2-3 jours avant, mais je n'ai pas jugé utile parce que j'en ai des dizaines, voire des centaines à traiter, de l'imprimer, de le lire même. Mais j'ai compris le vendredi que sur ce programme, il y avait au point 5 ou 6 une petite phrase qui disait « La Convention a été invitée à participer au culte de la célébration au temple réformé et le prédicateur sera Pierre Amé ». Très bien, donc vous apprenez ça le vendredi et la Convention commençait le vendredi soir. Alors, j'ai dû donner immédiatement des versets bibliques et je vous explique, bien sûr, un pasteur, comme on dit, trouvera toujours quelque chose à dire, c'est vrai, on dit même des fois, il cause jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose à dire, mais pour avoir été pasteur pendant 24 ans, c'est vrai que j'aurais pu reprendre quelque chose, j'ai déjà prêché lors du jeûne fédéral, mais c'est pas trop ma manière de fonctionner. Et voilà, j'ai dû donner des versets bibliques parce qu'il faut que les lecteurs officiels puissent se préparer. Donc là, je crois avoir reçu d'emblée des versets. J'avais la conviction de prendre Matthieu 22, les versets 34 à 39, que vous connaissez bien, les pharisiens qui s'approchent de Jésus et qui lui disent, au fond, un des auteurs de la loi vous posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et dans l'Église réformée, en général, on lit deux textes, souvent même encore un texte de l'Ancien Testament, un texte des Évangiles et un texte des Épîtres. Alors j'ai donné encore ce texte de Romains 2, quand Paul nous dit Romains 13, j'aime beaucoup ce texte aussi parce que Paul, vous savez, les commandements, on y reviendra tout à l'heure, il y a les 10 commandements dans Exode 20, Jésus a réduit à 2 commandements, et puis Paul, il simplifie encore l'équation, il arrive à 1 commandement. Paul dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, il a dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, de vol, etc., pas de faux témoignage. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime beaucoup les mathématiques de Paul, parce que vous savez, vous avez peut-être aussi, vous, à l'école, séché sur des équations. Vous deviez résoudre des équations, 1, 2, 3 inconnues. Et si vous arriviez à x égale 3, vous saviez que vous aviez réussi. Ce qui correspond souvent pas à la réalité mathématique. Mais par contre, si vous aviez x égale 2y sur 4p, etc., vous pouviez être sûr que c'était faux. Donc, Paul, voilà, il a ramené les commandements finalement en disant, logiquement, c'est pas possible d'aimer son prochain comme soi-même, c'est impossible si on ne connaît pas vraiment l'amour de Dieu. Si le Seigneur n'a pas rempli notre cœur de sa pensée, de sa présence, de son amour, de son pardon, de sa force, c'est pas possible. Donc, tout cela sous-entend, bien sûr, ce que Jésus a dit, d'aimer l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée. Ça, c'est tout ce qui se trouve là chez Paul. Donc, Je n'avais que cela le vendredi, en fin d'après-midi, c'est déjà pas mal. Et puis je suis quand même allé sur Google, comme tout le monde quand on est dans la détresse, c'est-à-dire que j'ai tapé « jeune fédéral » et puis j'ai trouvé quelques renseignements sur l'histoire un peu du jeune fédéral. Et voilà, je suis parti à la convention et on commençait par un repas léger le vendredi soir et je parle à un frère qui est un des responsables de la convention. Je lui dis, vous me faites quand même un drôle de truc, hein, vous les responsables, vous mettez une petite ligne, vous ne m'avertissez pas et puis je ne peux pas prendre le même message. Et ce frère me dit, ah ben écoute, je viens de lire dans le journal 24 heures. Je vais te l'envoyer, donc voilà des éléments un peu plus, parce qu'on cherche des éléments pour nourrir une prédication. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un programme très chargé, en 1h05 ou 1h10, et moi j'avais un quart d'heure, vous voyez. Et plus c'est court, plus c'est dur à préparer. Si on vous donne 2 heures, ben, voilà, vous allez dire un certain nombre de choses, puis peut-être même des bêtises, mais un quart d'heure, c'est vraiment court. Et là, il m'a envoyé cet article magnifique, c'est « Le Conseil d'État vaudois qui regrette que les concitoyens ne célèbrent plus le jeûne fédéral comme autrefois. » Bon, je trouvais ça, c'était une bonne entrée en matière, et je ne vais pas vous lire tout cet article, mais il a dit à un moment donné, c'est la fête qui dit l'union de tous les confédérés, la fête en l'honneur du seul maître auquel se soumettent les Suisses. De Dieu qui, depuis des siècles, bénit la patrie et la fait libre, nous avons grand besoin qu'il continue à la bénir et à la protéger. C'est formidable, n'est-ce pas, de part du Conseil d'État vaudois. Sauf que l'article a été écrit le 16 septembre 1896. Vous voyez, donc... voilà, je me suis dit... D'abord, j'ai pensé que vraiment on avait un Conseil d'État vaudois formidable. Je ne dis pas qu'il n'est pas formidable, hein, on est d'accord. Mais... Et puis, voilà, je suis rentré le vendredi soir à Saint-Blaise et je peux vous expliquer que vous êtes quand même dans une certaine détresse quand vous vous dites, voilà, vous êtes au temple et puis moi je suis à plein temps dans cette convention. Alors j'ai crié au Seigneur, bien sûr. Et parfois il faut qu'on soit dans la détresse pour crier au Seigneur, n'est-ce pas? Parce que souvent on compte sur ses forces. C'est vrai que si j'avais su 15 jours avant, je ne dis pas que je n'aurais pas prié, je ne dis pas cela, mais... j'aurais été plus tranquille, plus paisible, voilà, j'aurais porté cela paisiblement dans la prière, chercher tranquillement le message qui me paraissait juste, alors que là, j'étais vraiment, non seulement j'avais plus de temps, mais le dimanche, ça arrive vite, vous savez, voilà, surtout quand on est dans la nuit déjà du vendredi au samedi. Le Seigneur a entendu ma détresse, et à 2h du matin, il m'a réveillé, mais clairement réveillé, ça arrive hein, qu'on se réveille, mais là c'était vraiment plus que cela. Et le Seigneur m'a dit, prends une feuille à quatre, et tu écris. Alors j'ai pris une feuille à quatre, un stylo, et il m'a dit, je veux que tu dises dimanche matin le discours de Dieu à la nation suisse. Ah ben avant de dire, Seigneur, écoute, vas-y toi-même, parce que tu me dis de dire ton discours, d'accord, voilà. Mais il m'a dit, je veux t'aider, mais tu commences par lire intégralement Romains 1, 18 à 32. Je dis, mais Seigneur, il est question d'homosexualité. Je dois prêcher dans une église où je n'ai pas été invité, donc j'ai été imposé par la convention, et dans une église qui a des pasteurs homosexuels. Il m'a dit, oui, je te demande de lire cela, mais je veux te donner quelques consignes pour développer ce texte. Et voilà, j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai, Paul a dénoncé des choses, c'est inimaginable. J'imagine que vous connaissez un peu ce texte, n'est-ce pas? Quand il est dit dans Romains 1, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu leur a manifesté en effet les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Mais n'ayant pas reconnu Dieu comme créateur, ils se sont mis à adorer des idoles. Et le pas suivant, en ayant adoré des idoles, on a dit, Dieu les a livrés dans toutes sortes d'abominations, hélas, qu'on trouve aujourd'hui dans notre société. Il faut comprendre ce mot, il a livré, non pas que Dieu aurait du plaisir à nous conduire dans de faux chemins, pas du tout. Dieu prophétiquement nous avertit constamment, par la parole, par des prophètes, par les cultes, des cantiques, des prières, la prédication. Mais il peut nous parler aussi au travers de nos journaux quotidiens, au travers de la télévision. Dieu a mille moyens pour nous parler, pour, avec amour, pour nous avertir, pour nous dire, comme le père du fils prodigue, « Reviens, tu n'es pas sur un bon chemin. » Dieu nous avertit, mais quand quelqu'un persévère vraiment dans une voie qui n'est pas juste, il peut arriver, c'est vrai, que Dieu dise, eh bien, allez-y. Je vous laisse aller. Et c'est comme ça que je comprends, Dieu les a livrés. Dieu n'a pas de plaisir à livrer des personnes comme ça dans de telles abominations, parce qu'il n'y a pas que la question de l'homosexualité, bien sûr, il y a toutes sortes de choses abominables. Et le Seigneur me montrait dans cette nuit-là déjà que, par exemple, l'Empire romain s'est écroulé, n'est-ce pas, parce qu'à un moment donné, voilà, l'Empire romain est entré dans ce qu'on appelle encore aujourd'hui, il voulait du pain et des jeux. Et c'est vrai que nous sommes dans une société où nous sommes un peu dans cette situation-là. On veut, entendons par le pain, on veut disposer de plein de choses, bien sûr, la nourriture aussi, mais naturellement, toutes sortes de choses qui nous paraissent nécessaires, et puis surtout de pouvoir s'amuser. Surtout de... alors, je ne parle pas des loisirs qui sont nécessaires, qui sont une bénédiction aussi, mais nous sommes, c'est vrai, dans une société, et le Seigneur me montrait, non seulement notre nation pratique ces choses, mais chose plus grave encore, on a légalisé des abominations. On a légalisé des abominations. Et là, je commençais d'écrire, vous savez, tout en tremblant beaucoup, et c'est vrai que le Seigneur me montrait aussi, nous sommes comme au temps de la fin des juges. En ce temps-là, c'est le dernier verset tragique, quand même, quand on pense à toutes les bénédictions du peuple d'Israël qui a été sorti de l'esclavage, qui a été nourri pendant 40 ans, même si c'était toujours la nourriture, la même, mais en attendant, ils avaient à boire, ils avaient de la nourriture, leurs souliers ne se sont pas usés, ils ont connu quand même la puissance de Dieu qui s'est révélée au Sinaï. Et malgré cela, peu de temps après Josué, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quel triste verset, mais en même temps, nous sommes aussi un peu dans cette situation de société. Je pense à mon ami Thierry Béguin qui me disait il y a déjà plus de 20 ans, quand il était encore soit dans les affaires ici, dans le canton de Neuchâtel, comme conseiller d'État, il a été à Berne, bien sûr, dans les deux chambres fédérales, il me disait... Bientôt, la Suisse sera ingouvernable. Et ça fait bien longtemps qu'il me disait cela. Et voilà, le Seigneur m'a dit, il ne faut pas s'arrêter sur ces abominations, il faut remonter au pourquoi des choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit, le pourquoi c'est d'abord que le peuple est devenu idolâtre. Nous sommes idolâtres. D'abord, nous sommes idolâtres de nature. Ça, il faut le savoir. Et quelque part, toute sa vie, on doit parfois lutter contre des choses qui s'installent en nous et qui prennent une telle importance que ça peut devenir comme une idolâtrie. Et donc, il m'a montré cela, le peuple est idolâtre. Et j'ai mis le doigt, en fait, sur Jérémie 44, qui est pour moi une attestation de ce que peut être le peuple idolâtre d'Israël, mais aussi d'aujourd'hui. Et je résume ce qui se passe dans Ésaïe 44, les versets 16 à 19. Je résume un peu la situation. Vous savez que le peuple qui se détournait de l'Éternel, qui entrait dans une idolâtrie qui nous fait frémir, mais en même temps nous sommes dans un peuple, dans un monde idolâtre, ça veut dire que il se mettait à adorer des divinités étrangères, à mettre des toutes sortes de figures, d'idoles sur les murs du temple de Jérusalem par exemple. Et voilà, ben Dieu a permis que les armées de Nebuchadnetsar arrivent jusque en Israël et finalement en 587 jusqu'au port de Jérusalem pour détruire Jérusalem. Et Jérémie, que vous connaissez bien, ce prophète qui pendant 27 ans, 30 ans a dit la parole de Dieu, a averti en disant « Mais revenez à l'Éternel, revenez au Dieu vivant, parce que si vous persévérez dans votre idolâtrie, il se pourrait que s'accomplisse aussi une prophétie donnée à Moïse, entre autres, que les armées étrangères viendraient pour reprendre au fond votre liberté et faire de vous à nouveau des esclaves et vous emmener, vous déporter à Babylone. » Et le peuple ne voulait rien entendre. On a tout fait avec Jérémie, on l'a mis dans une citerne, on l'a mis en prison, on lui a tout fait. Une chose étonnante, quand on détruit Jérusalem, qu'on emporte les jeunes gens, les jeunes filles et les responsables enchaînés à Babylone, Nebuchadnetsar, le grand roi Nebuchadnetsar, Nabucodonosor, avait donné des ordres particuliers à son général en disant « Prends soin de Jérémie ». Et on voit dans ces textes d'Ésaïe ce qui est exceptionnel d'un général qui dit à Jérémie, il faut en prendre soin. Il avait donné des ordres à ses soldats, en tout cas de ne pas le tuer, d'en prendre soin. Et il va dire à Jérémie, tu es libre, fais comme tu veux venir avec nous, bienvenue. D'ailleurs, le peuple a été bien traité à Babylone, mais tu veux rester ici, tu vas où tu veux. Et ça me permet de dire, quand on est dans la fidélité au Seigneur, quand on aime sa parole, quand on n'a pas honte, et qu'on ose la dire, la vivre, la proclamer, la prier, eh bien, c'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté, même si parfois on essaye de nous en priver. Mais Jérémie était un homme libre et cela a été attesté. Mais le peuple, voyez, ils ont vu toutes les prophéties s'accomplir, sans exception. Et pourtant, quand Nebuchadnetsar nomme Gedalia comme gouverneur de cette Jérusalem et d'Israël sous la domination désormais et presque jusqu'à l'Empire romain, sous la domination des Mèdes, des Perses, d'abord des Babyloniens, eh bien, le peuple se révolte, il tue Gedalia, et Jérémie reprend la parole en disant « C'est abominable ce que vous faites, mais ce peuple qui tue le gouverneur babylonien, il décide de fuir en Égypte de peur des représailles. » Et Dieu a encore pitié de son peuple. La pitié de Dieu, la grâce de Dieu, c'est inimaginable. L'amour de Dieu. Imaginez, vous tous qui avez été parents ou qui êtes parents, des fois nos gamins et nos enfants, hein, ils nous font des crasses, ils nous énervent des fois. Et puis, quand ils sont adolescents, c'est encore pire des fois. Mon ami disait, quand ils sont tout petits, on les croquerait. Puis quand ils sont adolescents, on regrette de ne pas les avoir croqués, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que, au-delà de cela, on a un amour incroyable pour nos enfants. Un amour fou. Alors imaginez l'amour de Dieu. Donc il dit à Jérémie, va dire au peuple, surtout ne descendez pas en Égypte, parce que là, alors vous allez périr. Il savait à l'avance, averti par Dieu, que Nebuchadnetsar irait aussi en Égypte et qu'il finirait vraiment avec ce peuple juif rebelle. qu'il les punirait là sur place d'avoir tué Gedalia, eh bien, non seulement ils y vont, c'est terrible, le cœur de l'homme, ce qu'il peut être dur, c'est inimaginable. Et là, ils emmènent de force Jérémie avec eux, en disant, c'est quand même mieux si on a Jérémie, le prophète, avec nous, au lieu de lui obéir. Alors évidemment, la suite, on la connaît, mais quand ils sont là, en Égypte, le peuple dit littéralement dans ce texte que je vous ai signalé, Jérémie 44, 16 à 19, le peuple dit, quand nous étions à Jérusalem dans le passé, c'était formidable. On adorait la reine du ciel et on avait à manger et on était heureux. Vous voyez, du pain et des jeux. Ils sont dans la misère absolue. Ils ont vu toutes les prophéties s'accomplir et malgré tout, ils sont encore en train de dire, nous étions heureux. Vous voyez, le cœur de l'homme. Ça veut dire que si on a ce qu'on veut pour vivre, et puis qu'on peut se distraire, s'amuser, j'ai rien contre, hein, des loisirs et des fêtes sans le péché, c'est formidable, une fête populaire, une fête familiale, moi j'aime tout cela. Mais ça veut dire que, pourvu qu'on ait cela, on est prêt à adorer, au fond, l'idole qui va nous fournir ces choses. Et nous en sommes là aujourd'hui. On adore toutes sortes d'idoles matérielles, spirituelles, dans toutes sortes de religiosités, pour autant qu'elles nous assurent ce que nous souhaitons. Et une partie de notre peuple désire finalement s'éclater dans tous les domaines. L'essentiel, c'est qu'on puisse jouir dans tout le sens du terme. Voilà, c'est le but. Et donc, on va sacrifier à celles et à ceux aux choses qui nous procurent toutes ces choses. Là, c'est l'état de notre société. Vous comprendrez bien que je développe plus que lors du jeûne fédéral, parce que je suis déjà au-delà de 15 minutes, vous comprenez bien. Donc, j'ai résumé tout cela, c'est sûr, mais avec des mots précis que j'aurais peut-être même de la peine à retrouver de manière si concise ce matin, alors où je développe un peu plus. Donc, le Seigneur me disait, voilà ce qu'est l'idolâtrie du peuple. Et notre monde, notre nation, aujourd'hui, est idolâtre. Mais il faut maintenant remonter plus haut. Parce que pourquoi le peuple est devenu idolâtre ? Parce qu'il a rejeté le Dieu créateur. Il n'a pas reconnu, voyez, au travers de la création, il n'a pas reconnu le créateur. Et alors là, le Seigneur mettait le doigt aussi d'une manière très précise, par exemple sur Jérémie 2, verset 27, quand il est dit, et c'est, j'imagine la souffrance de Jérémie qui disait ces choses, qui les écrivait, dit « Eux qui disent, au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as engendré. » C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, j'étudie les questions science et foi depuis plus de 40 ans. J'y travaille même dans le cadre d'un doctorat depuis des années. Or, la théorie classique de l'évolution dit ce que Jérémie a prophétisé, a annoncé. On dit aujourd'hui dans notre société, c'est la pierre qui nous a engendrés. C'est la matière qui est devenue vivante. C'est la théorie classique de l'évolution. Il y a eu de la matière qu'on veut éternelle, parce qu'on ne veut pas d'un créateur. Donc quand on ne veut pas d'un créateur, on est bien obligé d'admettre que la matière est devenue vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chaises qui sont de la matière, il y a une chair qui est de la matière, et il y a vous qui êtes vivant. Et Leibniz a dit, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose plutôt que rien ? Donc ça veut dire, puisque ces choses existent, que nous sommes vivants, que nous ne croyons pas à un Dieu créateur, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait eu une étincelle qui a permis que de la matière soit devenue une première particule de vie qui se soit répliquée, multipliée, c'est la théorie classique de l'évolution, et ensuite depuis ce qu'on appelle encore parfois la soupe primitive, les cellules se sont multipliées, les prokaryotes, etc., et puis les amibes, et puis finalement des poissons, et tranquillement des vertébrés, et puis finalement l'être humain que nous sommes. C'est la théorie classique depuis 150 ans. Et le Seigneur me disait, voilà, le peuple est devenu idolâtre parce qu'il a rejeté un créateur. Et quand on rejette un créateur et qu'on accepte, j'allais dire béatement, la théorie classique de l'évolution, évidemment, nous sommes des descendants des animaux. Ça, j'invente rien, n'est-ce pas? On nous le sert tout le temps, dans des films, des encyclopédies, on ne cesse de nous répéter que, évidemment, parce que il n'y a pas d'autre solution. Si on est matérialiste du point de vue philosophique, ça veut dire que s'il n'y a que de la matière, évidemment, il n'y a pas photo, on descend bien de cette cellule primitive via les poissons, via les vertébrés, via les grands singes et finalement l'être humain, qu'on n'hésite plus à dire d'ailleurs maintenant que, je le lis, je peux vous le dire, nous sommes au fond des animaux qu'on appelle supérieurs, avoir, qu'on appelle évoluer, avoir, avec un plus gros cerveau, avoir aussi. Quand on voit que certains animaux avec un tout petit cerveau font des choses formidables, on ne peut pas toujours célébrer notre gros cerveau, n'est-ce pas? Mais le Seigneur me montrait, voilà où est notre peuple, parce que devenu idolâtre, partant de ses abominations, devenu idolâtre, ayant rejeté le Créateur, ils en tirent les conclusions et ils vivent selon, au fond, leur pensée philosophique et matérielle. Donc, ils se comportent de plus en plus comme certains animaux, il faut ajouter. Parce que il y a beaucoup à apprendre, parfois, vous le savez. Mais, quand même, ce qu'on appelle aujourd'hui la sociobiologie, c'est-à-dire où on étudie toujours plus la sociabilité des animaux pour la comparer à notre sociabilité. Et c'est ainsi que, par exemple, les bonobos sont vraiment étudiés de fond en comble. Pourquoi? Parce que pour une partie de notre humanité, c'est vraiment les bonobos, ces grands singes bonobos, ils vivent d'une manière parfaite, selon eux, comme devrait vivre la société, c'est-à-dire qu'ils vont résoudre tous les problèmes par la sexualité, c'est-à-dire et toute forme de sexualité. Donc, inceste, évidemment, toutes les formes de dérives possibles, bien sûr, homosexualité aussi. On a une partie de notre humanité qui rêve de vivre comme ça. De dire, si on pouvait vivre comme ça, il n'y aurait plus de problème sur la Terre. Voyez. Et quand on se rend compte que notre société se sexualise de plus en plus, on se rend compte qu'il y a une direction qui va dans ce sens. D'ailleurs, je lis des choses incroyables qui arrivent chez nous aussi. Quand on parle de zoophilie, voyez, de sexualité avec les animaux, il faut savoir quand même qu'en Hollande, c'est autorisé et que chaque week-end, des cars viennent de plusieurs pays pour pratiquer la zoophilie. Vous me direz, mais écoutez, monsieur, parlez-nous pas de ça, mais c'était une prédication prophétique, je partage avec vous, notre peuple en est là. Et ça veut dire que j'ai lu chez eux, et pourtant c'est des écrivains aux États-Unis, des sociologues, des psychologues, des psychiatres, des physiciens, des scientifiques, pas tous, hein, on est d'accord, mais j'ai lu ce texte qui fait partie d'un livre où un scientifique de haut niveau confesse à son épouse qu'il commet adultère. Alors, bien sûr, son épouse est pleurée, finit quand même par lui demander avec qui. Il lui dit, c'est avec Sylvia. Mais qui est cette Sylvia? Eh bien, c'est une chèvre, cher ami. Et ils écrivent ces choses. Et l'Éternel nous montrait, mais voilà où notre peuple en arrive. Voilà où notre nation en arrive. Et vous voyez, quand on disait Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous sommes dans un temps aussi où c'est le peuple qui fait la loi. Voyez, normalement, la loi judéo-chrétienne qui a impacté tout l'Empire romain et qui a fait que notre société est devenue une société vivable, une société qui s'est développée selon des principes qu'on en a tirés de l'Ancien Testament et des 10 commandements, entre autres, en plus de la foi en Dieu, du pardon, de l'honnêteté, tout a été basé sur des choses solides et sûres. Or, aujourd'hui, c'est le peuple qui fait la loi. C'est le peuple qui décide qu'on va autoriser ceci, on va refuser cela. C'est le peuple qui descend dans la rue, qui dit « Nous sommes Charlie, n'est-ce pas ?» Je suis totalement opposé à la violence qui a eu lieu. On ne tue pas, on ne tue personne, c'est tout. Mais de là à ce que des millions de personnes descendent dans la rue et disent « Nous sommes Charlie » alors qu'ils ont produit des choses abominables, il faut le dire quand même. Et puis, j'entendais, je ne prononce pas sur M. Trump ou M. Poutine, j'aurais des choses à dire. Je viendrai volontiers une fois. J'ai donné une conférence à la Côte aux Fées mercredi, jeudi passé, sur la situation prophétique nationale et internationale. Et je parle aussi de M. Poutine et de M. Trump. Il y a des choses à dire. Mais cette maman que j'ai entendue via la télévision, bien sûr, mais en Amérique, qui disait... Elle portait une petite fille de 2 ou 3 ans dans les bras. Elle disait « Je ne veux pas être dans un pays où ma fille ne pourrait pas avorter. » Vous voyez, c'est dramatique, vous comprenez? De porter une petite dans ses bras, et le souci, c'est de dire « J'espère qu'un jour elle pourra avorter. » Et j'espère qu'on aura toujours cette liberté. Je me dis, mais quand même, j'espère qu'on a d'autres soucis pour nos enfants, n'est-ce pas? Qu'on a d'autres espérances de bénédiction pour nos enfants que de savoir qu'elles auront un jour le droit d'avorter. Alors, que faire? Et là, le Seigneur, quand il m'a montré tout ce que je devais dire, en raccourci, mais je l'ai dit clairement, on va dire, alors maintenant, je t'avais donné ces versets que tu as dû donner pour les lectures, il faut y revenir. Alors, il m'a dit, reprends les 10 commandements en Exode 20, et là, j'aimerais que tu mettes le doigt sur Exode 20, verset 6. Et là, j'ai compris comment Dieu me conduisait et comment on voulait parler à son peuple. C'est-à-dire que de revenir au Dieu créateur, c'était pas seulement revenir à une idée générale d'un Dieu créateur qui a mis sa main quelque part dans l'évolution, comme certains croyants, même évangéliques, le professent aujourd'hui. Oui, l'évolution c'est vrai, elle est prouvée, ce qui n'est pas vrai, mais ils l'admettent parce que c'est dur des fois d'aller à contre-courant. On a formaté notre disque dur depuis notre enfance. Et là, j'aurais des choses majeures à vous dire, mais ça veut dire que là, le Seigneur me dit... Verset 11, « Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il se reposait le 7e jour. » Il me disait, « Je veux que tu ailles jusque-là. » Et c'était dur, parce que c'est une chose de parler de Romains 1, mais aborder aujourd'hui, dans une courte prédication, le fait que revenir au Dieu créateur, c'est pas seulement revenir à un vague créateur, qui aurait mis par-ci, par-là, un coup de main pour aider l'évolution, mais qu'il a créé en 6 jours. Et là, je peux vous dire, même dans le monde évangélique, il y a des personnes qui disent, quand même, non mais quand même, vous croyez cela? Oui, je le crois. Et j'ai donné 1 ou 2 éléments. Ça fait partie d'une grande partie de ma vie maintenant, dans des conférences avec des scientifiques de haut niveau mondialement connus, comme André Hagen, des physiciens nucléaires, etc. J'ai la conviction profonde. J'étais évolutionniste en tant qu'ingénieur dans mes études d'ingénieur. Pourquoi je suis devenu créationniste qui croit à ce texte? D'une part, je me suis dit, si Dieu nous le dit, c'est que c'est vrai. Je crois à la parole. Et qu'est-ce que j'ai à dire à mes amis pygmées, où je suis allé si souvent, qui apprennent à lire pour lire la Bible et de leur dire surtout ne lisez pas la Genèse parce que ça ne veut pas dire cela. Et puis le déluge, c'est pas un déluge universel, comme on le dit parfois aujourd'hui, c'est juste un déluge local. Et puis le soleil de Josué, c'est pas possible. Réfléchissez un instant. Peut-être vous êtes choqués dans ce que je vous ai dit. Réfléchissez un tout petit moment. Est-ce que c'est possible que Josué ait arrêté le soleil? Vous imaginez physiquement ce que ça représente, ce que ça veut dire, des planètes qui se baladent à des milliers de kilomètres par seconde, de l'arrêter, c'est la catastrophe absolue. Absolue, c'est la mort instantanée de tout ce qui vit sur la Terre. Or, on lit ces choses, et apparemment, ça ne pose pas de problème. Par contre, quand on dit que Dieu a créé en six jours, ça nous pose des problèmes. Pourquoi ? Pas parce que la Bible dirait autre chose. Parce qu'une certaine science, opposée à Dieu depuis toujours, dans un matérialisme philosophique, a tout mis en œuvre pour démolir la Genèse. Et ça marche, pour beaucoup, même au sein de l'Église. Il y a aujourd'hui des scientifiques mondialement connus, des sommités reconnues dans, je dirais, tout le monde scientifique, comme M. Sanford qui a inventé le canon à gènes. On ne modifie rien au niveau génétique dans le monde entier, pour les OGM par exemple, ou pour des transformations maintenant, avec tous les risques que ça comporte. Mais quand même, on peut éradiquer des maladies. Rien ne se fait sans le canon à gènes, et c'est M. Sanford qui l'a inventé avec d'autres brevets. M. Sanford est un créationniste qui dit pourquoi, scientifiquement, il dit c'est obligé que tout ait été créé très rapidement pour que tout tienne ensemble. Et je pourrais vous citer d'autres, je fais partie d'un groupe de scientifiques internationaux, et je pense à M. Hartnett, des astrophysiciens, des sommités mondiales, qui enseignent dans les plus grandes et prestigieuses universités, non pas chrétiennes, et qui disent pourquoi ils croient que tout a été créé du point de vue scientifique en six jours. Alors je me dis, mais qui sont parfois les chrétiens qui disent « Oui, non, mais quand même, il ne faut quand même pas nous amuser avec cela. » Alors, je vais terminer, chers amis, parce que la bonne et grande nouvelle, c'est que Exode 20 commence par ces paroles exceptionnelles. Il a dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Et celui qui nous parle, l'Éternel qui nous donne des paroles de vie pour que la société puisse vivre. Parce qu'une société qui méprise les 10 commandements est une société qui s'écroule, je vous l'ai dit avant, et notre peuple s'écroule, et notre Europe s'écroule, c'est sûr et certain, vous le savez, on le dit tous les jours, on le voit, on le connaît. Donc, Dieu ne nous a pas donné ses commandements pour nous chicaner, il a donné, comme il le dit dans l'Ancien Testament, afin que le peuple vive. Et il le dit, mais tant de fois, afin que vous soyez heureux. Vous voyez ? Tant de fois, il dit, afin que vous soyez heureux. Afin que vos familles soient heureuses. Afin que vos campagnes soient bénies. Afin que vos troupeaux soient bénis. Est-ce que Dieu veut le malheur pour nous ? Non, il veut le bonheur. Il veut la vie. C'est pourquoi il nous a donné, à cause de la chute, à cause de Satan qui essaye de régner, il nous a donné des paroles de vie. Mais avant de donner ces paroles de vie, il est venu délivrer son peuple de l'esclavage. Et je dis aujourd'hui, tant de personnes sont esclaves. Tant de personnes sont esclaves, comme dit l'apôtre Paul, de ce qui a triomphé d'eux. Parfois le péché, parfois des habitudes, parfois de l'idolâtrie. Et de revenir à l'Éternel, c'est celui qui nous délivre. Bien sûr, en Jésus-Christ, qui est mort à la croix, pour que nous vivions libres et que nous ayons de la joie à accomplir le commandement suprême d'aimer son prochain comme soi-même, donc d'aimer l'Éternel de tout son cœur. Et quand on fait cela, on accomplit tous les autres. C'est le message de Jésus. Et notre monde a besoin de ces chrétiens-là. On ne croit pas sous la loi. On l'accomplit dans la croix avec la force du Seigneur. Et on vit ainsi librement. La vraie liberté, c'est non pas d'être condamné comme chrétien évangélique, pas du tout, c'est d'avoir le courage et la force de dire à toute sollicitation oui ou non. Et nous sommes sollicités du matin au soir. Nous devons prendre des décisions constamment, ne serait-ce qu'en regardant la télévision. On doit constamment prendre des décisions dans la vie. Or, dire oui ou non, en ayant la force de dire oui ou non, voilà la vraie liberté qui s'obtient en Christ. Et puis je pense à ce psaume tellement beau, au psaume 124, quand David dit « Notre secours est dans le nom de l'Éternel » et nous on s'arrête là. Et David a dit « Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». Vous imaginez d'avoir un Dieu, notre Dieu en Jésus-Christ, qui a tout créé, un ingénieur hors ligne, un poète, un artiste, qui a fait un monde parfait et qui le recréera parfaitement, de dire « Toi qui as fait les cieux et la terre », ça revient tout le temps dans l'Écriture, « Toi qui as fait les cieux et la terre, comme tu nous en as parlé, et tu nous fais la grâce d'avoir aujourd'hui des scientifiques de très haut niveau qui nous disent ces choses, eh bien, tu es notre secours. Je m'adresse à toi, Père Céleste. Je m'adresse à toi, Créateur. J'ai besoin de ton aide, de ton appui, de ta délivrance, de ton secours, de ton amour. J'ai besoin de tout cela. Mais nous ne nous adressons pas à une idole, justement. Et nous ne nous adressons pas d'abord pour satisfaire nos besoins, ce qui est vrai aussi, notre Père, donne-nous notre pain quotidien, mais on lui demande cette liberté profonde, cette paix intérieure, ce bonheur profond. Voilà ce que notre Dieu veut nous donner. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Soyez bénis, chers amis. Amen. Ah, j'ai oublié une chose. Heureusement, cette prédication a été enregistrée. Alors, il y a eu des personnes, je voyais des personnes, pas beaucoup, qui ont souffert. Si elles avaient pu me clouer le bec, elles l'auraient fait. Il y a même un monsieur qui est sorti avec bruit et fracas. Par contre, il y avait des centaines de personnes. Et ce qui est jamais arrivé, je ne vous demande pas de le faire ce matin, évidemment, ils ont applaudi à la fin. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Heureusement, ça a été enregistré et très rapidement après, un frère m'a téléphoné, m'a dit « Mais il faut que ce message se diffuse. » Alors, il est traduit déjà, non pas oralement, mais en allemand, en italien, en anglais, il se diffuse aux États-Unis, en France aussi, parce que c'est un message prophétique avec un ton très solennel, vous savez, dans cette église-là, avec ce que Dieu m'avait fait vivre au travers de cette nuit. Et voilà. Et puis, Prière pour la Suisse va faire de la publicité prochainement pour cette prédication. Et j'ai pris avec moi ces 18 minutes, ça vaut la peine, dans le temps qui est donné, là, c'est bref, et peut-être le partager autour de vous. J'ai mis quelques CD ici à la sortie, alors je m'assure, rassurez-vous, hein, je ne fais pas du commerce, mais je fais toujours cela après l'offrande, parce que ça serait tragique d'offrir quelque chose avant l'offrande. Donc là, vous n'avez peut-être plus de sous, c'est pas grave, mais servez-vous si jamais c'était le cas. Il y en a plusieurs qui sont ici à la fin et il coûte 5 francs si vous avez 5 francs, mais si vous êtes fauché, prenez-en un aussi. Voilà. Soyez bénis, amis. Et bon dimanche.